Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Radio Franca, ok, j'ai compris.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Vous nous écoutez sur 95.1. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gwendoline, Maëva et Bonjour. Alexis et Sophie qui vont vous parler et de moi qui vont vous parler de la de Bonzé. Voilà. Donc et moi qui vais vous poser des questions. Qui vais leur poser des questions. Bon. Première question. Qui a accompagné Donc Alexis.
Il y a ma mère.
D'accord.
La mère de Léo.
D'accord.
Le père de Thomas.
D'accord.
Le père d'Adam.
D'accord.
La mère de Maëva.
Oui, Maëva. Oui, bien sûr.
Oui. Et la maîtresse. Okay. La directrice.
D'accord. Deuxième question.
Oui.
Qu'avons-vous fait? Qu'avons-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Maëva?
Alors, nous avons mesuré la longueur de la rivière.
D'accord.
Sa profondeur.
D'accord.
L'air, la température de l'air, de la terre et de la rivière.
D'accord.
Après, on a visité le village, on avait des questions et il fallait répondre dans un petit carnet.
D'accord.
Voilà.
Pourquoi vous y êtes allée? Gwendoline?
Parce qu'on était en classe 2 et vu qu'il y a une petite rivière qui s'appelle le Longeau, et ben on a été à Bonzé.
D'accord. Donc vous êtes en semaine de classe 2 et vous êtes allé en Bonzé en petite sortie.
C'est ça.
D'accord. Donc, quatrième question. Qu'est-ce que vous avez vu? Alexis? Ah, Sophie, tu veux parler? Non? Ok, bah Alexis, vas-y. T'en rappelles plus?
Non.
Ok. Bon ben. Sophie? Toujours pas? D'accord.
Je t'entends.
Donc, Sophie, je vais te poser une autre question comme tu n'as pas beaucoup parlé. Qu'as-tu appris?
Sophie.
Qu'est-ce que t'as vu à Bonzé? Parle. Réfléchis en fait. Allez Sophie.
Tu sais pas? Non? Tu te rappelles plus?
Sophie, t'es là? Oui.
Où?
T'as été à Bonzé? Oui.
Parle
c'est où
dans
Bonzé?
Le micro, non?
Alors, attends, laisse parler Sophie. Il marche ton micro? Tu peux dire bonjour? T'oses pas? T'as peur?
Dis bonjour.
Bon, tu repasses après, c'est
si
pas
marche.
C'est pas grave. Alors, continue avec les questions, Thomas.
Donc, qu'est-ce que vous avez vu? Voilà, donc ça, c'était la question que j'avais posée à Sophie, qu'elle n'avait pas répondu. Maëva?
Alors, on a vu, bien sûr, de l'eau.
D'accord.
On a vu aussi un barrage.
D'accord.
Un pont.
D'accord. C'est tout? T'as d'autres choses?
Et de la vase à l'intérieur de la rivière, c'est de la terre, quoi.
D'accord. Veux-tu rajouter quelque chose, Alexis?
On avait vu que, comme Maëva, elle est tombée dans l'eau.
D'accord. Et Gwendoline, veux-tu rajouter quelque chose?
On a vu la patte d'oie, et c'est quoi? Je sais plus ce que c'est, mais on a vu la patte d'oie.
Voilà.
Et on a appris. Et
moi je sais.
Et la patte d'oie, c'est l'affluent du Longeau.
C'est qui a dit ça en plus?
Mettez-toi, Alexis. Sophie, vous êtes.
Bon, nous allons passer à la cinquième question. Qu'avez-vous appris?
Appris?
Ouais. Gwendoline?
Que le barrage servait à faire descendre ou monter pour pouvoir faire laver le linge, car à côté du longeau sur la rive
il y a un lavoir.
Gauche, il y a un lavoir. Et pour faire descendre l'eau, c'est au cas où il y aurait des inondations quand il y a des grosses tempêtes ou des déluges.
D'accord.
Ou des orages.
Maëva, as-tu quelque chose à remettre ?
Oui, alors je voulais dire comme Gwendoline, mais j'ai autre chose qu'il faut. Alors c'est qu'il faut pas beaucoup s'approcher de la rivière, hein, pas trop.
D'accord.
Pourquoi ?
Dis s'il te plaît.
Parce que je suis tombée dans l'eau.
Pourquoi tu es tombée dans l'eau alors ? Tu as fait une grosse bêtise ? Tu as fait quoi ?
Non, en fait, avec Adam, on mesurait la longueur de la rivière. Mm. Et donc moi, sans faire exprès, je l'ai fait tomber, j'ai voulu le reprendre et je suis tombée dedans.
Oui, bah alors moi aussi.
Ah bon ?
Oui. Bon, question suivante.
Bon, bah, c'est pas
rigolo question, quand même. Hein.
Quel matériau avez-vous utilisé ? Alexis.
Je sais plus.
Ok, ben Maëva.
Alors en fait, il y avait une ficelle avec un bout de métal. C'était pour mesurer la longueur.
D'accord.
La profondeur.
D'accord.
Et on avait des mètres pour mesurer la largeur. Et aussi, on avait comme un... Je sais plus comment ça s'appelle. Pour mesurer l'air.
Une seringue.
Oui, pour mesurer l'air, la terre et la rivière.
D'accord. Voilà. Gwendoline, veux-tu rajouter quelque chose ?
Non, c'est bon.
D'accord. Toujours pas, Sophie ? D'accord.
D'accord.
Bon, septième question.
T'as vraiment pas parlé, hein ?
Est-ce que ça vous a plu et pourquoi ? Alexis.
Moi, parce que j'avais mesuré la température de l'eau, de la terre.
D'accord. Et ça, t'as bien aimé ?
Et du vent.
Parce que t'aimes bien...
Mesurer les choses.
T'aimes bien mesurer la température ?
Oui.
D'accord. Donc, voilà. Maëva, qu'est-ce qui t'a plu et pourquoi ?
Alors, moi, j'ai bien aimé quand... je sais plus comment ça s'appelle. Non, pas quand je suis tombée dans l'eau, non.
D'accord.
Ah, et d'ailleurs, pour ça, je vous préviens que l'eau, elle est très froide.
Ok.
Je sais plus, je parlerai après Gwendoline.
D'accord, Gwendoline ?
Moi, j'ai bien aimé parce qu'on a appris beaucoup de choses et que Maëva est tombée dans l'eau.
D'accord, donc ça,
arrêtez,
c'est bien...
Arrêtez de dire ça ! Oh là là !
C'est bien sûr ce qui fait rire tout le monde.
Ouais, c'est sûr. Comme ça, tout le monde voit...
Maëva, tu t'en rappelles ?
Ou toujours pas ? C'est rien si tu tombes dans l'eau.
Quand non. La maîtresse, elle a rigolé. Parce que je suis tombée dans l'eau.
Ah, ok. Bon. Est-ce qu'il y a eu une chose qui vous a plu ? Une chose qui vous a plu. Gwendoline.
Parce qu'on a appris plus de choses et moi, j'aime bien apprendre des choses qu'on n'a pas encore appris.
D'accord. C'est tout ?
Oui.
Ok, Maëva ?
Moi, le lavoir.
Okay. Et pourquoi tu as aimé le lavoir ? Parce que c'était...
Parce qu'il y avait plein de bouts de bois par terre et les autres s'amusaient à les lancer. Du coup, moi aussi, j'ai fait ça. On a fait une course de bouts de bois, en fait.
Et puis moi, je lançais des cailloux.
D'accord. Donc, Sophie, tu veux toujours pas parler ? D'accord. Est-ce que vous pouvez... Alexis, toujours pas ? Ou est-ce que tu veux dire quelque chose ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Rien ?
Je sais plus.
Ok. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus, sans question, qu'est-ce que vous avez fait ? En racontant une petite histoire, par exemple. Ouh. Gwendoline.
On a appris que la rivière, elle avait un nom et que ce nom s'appelait le Longeau.
D'accord.
Qu'il y avait les côtes de Meuse qui étaient très vieilles parce qu'elles étaient arrondies et pas pointues.
D'accord.
Et qu'il y avait plein de sources en Meuse.
D'accord. C'est tout ?
Et on a appris qu'il y avait des rejets d'eau usée.
C'est tout ?
Je laisse la parole à Maëva.
À Maëva.
Oui, voilà.
D'accord, vas-y Maëva.
Alors moi, je vais te la faire, ta petite histoire. Alors, il était une fois dans l'école de Valleroy Jean Mourette. L'école, la classe de CE1, CE2 est partie à Bonzé en bus. Il y avait 45 minutes de route. Quand nous sommes arrivés, Nous sommes allés poser nos sacs dans une petite salle et un monsieur, je sais plus comment il s'appelle, nous
Maxime.
Arnaud. Nous a expliqué ce qu'on allait faire. Alors on allait faire des choses près de la rivière, il nous a rien dit de plus. Et on allait faire le tour du village et on devra répondre aux questions.
Voilà, donc c'est ça ta petite histoire ?
Non, j'ai pas fini.
Ah ok.
Après, il y avait deux groupes. Le groupe de Thomas et mon groupe à moi.
Ok.
Et le groupe de Thomas a commencé par faire une balade dans Bonzé. Et nous, on est allés dans la rivière. Et dans mon groupe, tout le monde a rigolé quand j'ai mesuré la longueur, vous
oui,
le savez.
T'es tombé tout l'eau, voilà.
Mais arrêtez de le dire, je voulais pas le dire.
Ouais, ça c'est vrai, par contre, t'es tombé dans l'eau, hein. D'accord, donc
je crois que tout ce qu'on a dit, on voyait.
Au revoir, j'espère que ça vous a...
Parce que t'es tombé dans l'eau.
Une petite histoire. Au revoir, et j'espère que ça vous a plu.
Au revoir.
Bon, bah, au revoir. Je vous raconterai la suite la prochaine fois.
Merci de vous avoir écouté. Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous nous écoutez sur 95.1. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler des ateliers sur l'eau que nous avons fait avec la maîtresse Mathilde le vendredi 13 avril 2018. Je suis en compagnie de Noah, Morgane, Léo, Corentin, Angelina. Première question. Combien d'ateliers avez-vous fait et lesquels ? Noah ?
On en a fait trois. Avec Christelle. Lesquels ? Il y avait un atelier qui est cool ou flotte. Un autre qui était avec
Morgane,
avec la maîtresse.
Quelqu'un d'autre a une réponse ?
Non.
Oui, Corentin ?
On a essayé de faire flotter des trombones, un trombone.
Bouchons. Et des bouchons.
Angelina ?
On a aussi fait flotter de la pâte à modeler.
Léo, t'as quelque chose à dire ?
Non.
On a fait...
Noah ?
On a fait flotter aussi des rondins de bois... des bouchons.
Ça, c'était dans le cool ou flotte.
Oui, dans le cool ou flotte, on fait flotter dans le bois, des bouchons de.
Oui, Léo.
D'eau. On a travaillé aussi sur la pollution.
D'accord. Morgane.
Oui.
Quel atelier avez-vous préféré et pourquoi ? Corentin ?
La pâte à modeler, c'était super dur.
Morgane ?
Moi, j'ai adoré Cool ou flotte. Parce qu'on a essayé de faire couler un trombone.
Flotter un trombone.
Flotter un trombone.
Angelina ?
J'ai préféré, comme Corentin, faire flotter de la pâte à modeler.
Et pourquoi ?
Bah parce que c'était bien. On a aussi fait de la pollution avec la maman de la maîtresse Julie.
Julie, c'est l'ancienne maîtresse. La
maîtresse Mathilde.
Léo, toi, qu'est-ce que t'as préféré ?
Aussi faire flotter de la pâte à modeler.
Et Noah ?
Et moi, faire flotter la pâte à modeler et faire flotter un trombone.
Ben, presque.
Et les pièces
tout.
Le jeu avec les pièces, que ça coule. Je suis le meilleur.
Presque tout le monde a préféré la pâte à modeler. Oui. Troisième question. Vous avez travaillé sur quoi quand vous étiez avec la maîtresse Mathilde ? Noah ?
On a travaillé sur la pollution.
Maîtresse Mathilde. Ça, c'était avec Hélène.
Ah.
Morgane ?
La maîtresse Mathilde, elle a mis du colorant dans chaque verre. Un verre où c'était de l'eau froide, bleue, avec du colorant alimentaire bleu. L'autre verre avec du colorant rouge très chaud. Et le résultat que ça a donné, le rouge, on a fait tout doucement. Donc le rouge, il est monté. Et le bleu, il a descendu, donc ça a fait bleu, blanc, rouge.
D'accord. Quelqu'un d'autre a une réponse ? Noah ?
Il y avait aussi quand on devait faire flotter un trombone avec un papier.
D'accord. Et quatrième question. Quand vous avez été avec Hélène, quel objet, enfin, quelle sorte de choses y avait-il dans les bouteilles ?
Des...
Léo ?
Il y avait de l'herbe, de la terre, des cailloux et du sable.
D'accord. Cinquième question. Pour coule ou flotte, à part faire flotter ou couler quelque chose, qu'est-ce que vous avez fait d'autre ?
On a fait flotter des pailles.
Non. À part faire flotter ou couler.
Et on a réussi à faire de la pluie.
Morgane ?
On a mis un glaçon dans un verre et Christelle, elle a ramené de l'eau chaude. Elle en a mis dedans. Donc le glaçon, il a fondu très très vite en une seconde.
Et quel autre atelier avez-vous fait à part ces deux-là, Corentin ?
Avec la maîtresse Mathilde.
Non, dans Coule ou Flotte avec Christelle. À part Coule ou Flotte et l'iceberg avec Christelle.
Elle a mis de l'eau chaude dans un bol. Et elle
à
a
part
mis...
ça. Ah, vas-y, continue.
Elle a mis du papier. On a attendu. Après, c'était tout chaud.
Oui. Sixième question. Pour le jeu de la pâte à modeler, comment avez-vous trouvé, quelle solution avez-vous trouvé pour la faire flotter ? Angelina ?
Il faut faire comme un petit bol, renforcer bien les bords, faut pas que l'eau passe dedans et après on le met et il flotte.
D'accord. Septième question. Pour l'atelier avec la maîtresse, Mathilde, quelle couleur avez-vous obtenu quand vous avez mélangé l'eau chaude et l'eau froide ? Angelina ?
Yeah. Elles se sont pas mélangées, l'eau chaude est restée au-dessus, l'eau froide est descendue en bas.
Mais avec le colorant rouge et bleu, noir.
Aussi, il y avait, quand c'était mélangé, ça fait la couleur violet.
Mais c'est que avec le colorant.
Oui, avec le colorant.
Sans colorant, Angelina avait raison. Mais si vous mélangez bien avec une cuillère, ça fait pareil ?
Non.
Non.
Huitième
Ça fait du...
T'as une réponse, Corentin ?
Violet.
Non. Huitième question. Quand on était avec Hélène, quel était le jeu avec les pièces ?
C'est le jeu au kiff.
Oui.
Il y avait un bocal et celui qui fait couler les pièces sur le bocal, bah, s'il coule, on a perdu.
D'accord. Et est-ce que quelqu'un a réussi à faire flotter le trombone ? Oui, Noah, t'as réussi ?
Oui.
Comment t'as fait ?
J'ai pris un papier et j'avais mis sur le trombone. D'accord. Et après, le papier était en dessous du trombone.
Oui.
Et après, je l'ai posé comme ça.
Tout doucement.
Et il a flotté.
D'accord. Morgane ?
Moi, ma technique, j'ai pris le rondin de bois et j'ai mis le trombone dessus et ça a flotté.
Et dans l'atelier, des bâtons que vous levez et baissez, est-ce que vous avez réussi ?
Moi, oui.
Comment t'as fait ?
J'ai pris l'autre, j'ai mis l'autre jusqu'à sa limite.
Le scotch.
Et l'autre, il est tout en haut, au casse-scotch. Et j'ai réussi comme ça. Parce que l'eau, elle devait être maximum côte à côte pareil. Un peu pareil. Sinon, on n'aurait pas réussi. Et que les bouchons devaient être restés ouverts. C'est tout.
Quand dans l'atelier avec la maîtresse Mathilde, vous avez mis les gouttes dans un grand bocal, qui a gagné et qui a perdu ?
Moi, j'ai gagné.
Morgane ?
Contre Jade. Moi, j'ai gagné contre Jade.
T'as perdu, Morgane ?
Je perds jamais.
Oui. Contre qui ?
Léo.
D'accord. Et dans le jeu où vous avez deux gobelets, il y en a un qui est rempli d'eau et l'autre est vide. Vous avez une éponge, une cuillère, une paille et je ne sais plus quoi d'autre. Qui a réussi à gagner ?
Moi, j'ai réussi, je me suis servi de l'éponge. Et Jade et aussi de la seringue, je me suis servi et de la cuillère.
Ah,
c'était
oui,
beaucoup facile, hein. Avec
Morgane,
Moi, j'ai perdu contre Lizzie. On était ensemble et on a pris la grande seringue. Et Lizzie, elle a gagné parce que elle, j'avais pas entendu le départ. Et Lizzie, elle avait
entendu.
Elle avait déjà commencé vu que c'est elle qui l'avait donné le départ. Donc j'ai perdu.
Et moi, je ferai juste.
Quelqu'un veut rajouter des choses ?
Oui, moi.
Angelina, non ?
Non.
Moi, oui.
Noah ?
Et aussi, ce qui n'est pas facile, c'est avec la cuillère.
Oui, c'est vrai.
Et il y avait aussi qu'il y avait un atelier où il y avait plusieurs verres.
Attends. Léo ? Est-ce que toi, tu as réussi à faire avec la paille pour les deux verres ? C'est là où il y a de l'eau dans un verre et pas dans l'autre. Est-ce que tu as réussi à trouver une solution pour la paille ?
Non.
D'accord. Neuvième question. Avec Hélène, quand vous avez fait flotter le trombone mais sans papier, quelqu'un a réussi ?
Moi, oui.
Sans papier ?
Oui, j'ai un peu du mal. J'ai eu un peu du mal.
T'as pas du tout utilisé le papier ?
Non, j'avais juste fait un peu casser le... Et pour que ça se flotte, pour que ça flotte. Et avec la paille, j'ai réussi aussi.
C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. retrouver toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Vous nous écoutez sur 95.1 et je m'appelle Aroman et je suis en compagnie de Malone.
Bonjour.
Lauriana.
Bonjour.
Caïs.
Bonjour.
Et Adam.
Bonjour.
On va commencer par la prochaine, par la première question. À quoi sert la station d'épuration, Caïs?
À se retraiter l'eau.
Malone.
À traiter l'eau, la renvoyer dans la terre, mais elle est toujours pas bonne pour nous.
Adam.
Elle sert, donc elle traite l'eau, elle enlève les saletés, mais il y a quand même des petits microbes, elle n'est pas encore potable.
Deuxième question. Est-ce que ça sent mauvais?
Oui.
Adam?
Ça peut sentir mauvais pour certains. Après, moi j'ai trouvé dans la salle des traitements de boue, ça sentait un peu les brocolis. Après, je laisse la parole à Malone.
Moi, j'ai trouvé que ça sentait très très bon parce que on aurait dit que ça sentait un peu la pizza. J'ai trouvé ça dans le traitement des boues comme Adam, que ça sentait la pizza un peu et le burger. Maintenant, je laisse la parole à Lauriana.
Ça sent très très mauvais.
Moi aussi, j'ai trouvé que ça sentait mauvais.
Alors, merci. Quelles sont les étapes? Malone?
Le dégrillage.
Caïs?
Le désablage.
Et
Adam?
Après, il y a le... Donc, comme Caïs l'a dit, le désablage, désulage. Après, il y a le décantateur primaire. Donc, il y a le décantateur primaire, l'aération, le décanteur secondaire et le traitement de boue.
Lauriana?
Ah oui.
Malone?
Le clarificateur?
Oui. Quatrième question.
Qui tourne 24 heures sur 24. Et 7 jours sur 7.
Quelle étape a été la plus intéressante pour vous? Caïs?
Où il y avait les bassins?
Adam?
Alors moi j'ai préféré celle avec l'aération, avec les bactéries qui mangent les petits microbes qui restent.
Malone?
Moi j'ai bien aimé le dégrillage.
Lauriana?
J'ai aimé comme Caïs.
Cinquième question, est-ce que quelque chose vous a marqué?
À Romain, je peux savoir dans quel sens marquer?
Ouais, moi aussi.
Moi aussi. Vous a plu?
Je l'ai pas déjà dit.
Adam?
Moi, j'ai bien aimé le désablage des villages.
Caïs?
Ils mettent des bulles pour faire remonter le sable et la graisse. Et puis, il y a un bras mécanique qui balaye ce qu'il y a au-dessus et puis qui les enlève.
Caïs?
Moi, c'est quand il y a un monsieur qui nous a montré un produit pour enlever la boue.
Le chlore.
Le chlore. C'est ce que j'ai aimé.
Malone? Moi, j'ai adoré la même cadence.
parce que j'ai mis la même que lui en fait.
Lauriana,
explication sur l'email.
La même chose que Kai.
Le reportage que nous avons fait. Donc on a fait un reportage.
Bonjour, nous sommes la classe de CE1-CE2 de Madame Signorini, de l'école Jean Morette, de Valleroy. C'est notre semaine de classe d'eau et nous sommes venus visiter la station d'épuration de Jeuf pour savoir à quoi sert-elle.
Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis actuellement en compagnie de...
Maxime.
Qui est ?
Qui est technicien à la station d'épuration.
Et qui va répondre à quelques questions au sujet de la station d'épuration. Voici ma question. Quels sont les horaires de fonctionnement de la station ?
Eh ben la station d'épuration, elle fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
D'accord, merci.
Bonjour, je m'appelle Léo.
Quels polluants ne sont pas retenus
pendant le dégrillage ?
Eh ben comme on a vu tout à l'heure, il y a les graisses et les sables qui ne sont pas retenus et les matières microscopiques.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Frédéric. Voici ma question. Comment enlève-t-on les matières qui sont au fond du bassin de désablage et déshuilage ?
Alors pour enlever le sable qui est au fond du bassin, on envoie de l'air. Et en fait, l'air avec l'eau, elle remonte dans les tuyaux. Elle est envoyée dans un classificateur qui fait remonter le sable. Et l'huile qui est en haut, l'huile et les graisses qui sont en haut du bassin, elles sont raclées en surface. Et elles sont ensuite envoyées dans un autre dépotage où il y a un autre traitement qui sera fait.
Merci.
Bonjour, j'appelle Sophie. Quand vous appelez-vous ?
Je m'appelle Maxime.
Combien de kilos de boue récupérez-vous ?
Alors, nous, on compte sur l'année. En fait, il y a des centaines et des centaines de tonnes qui sont évacuées tous les ans. Et on est à peu près entre 1000 et 2000 tonnes d'évacuées par an.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Jade et voici ma question. Pourquoi les petites bestioles ont-elles besoin d'oxygène ?
Eh ben, c'est comme pour les êtres humains, ils ont besoin d'oxygène pour vivre et puis pour manger aussi. Pour vivre, ils ont besoin d'oxygène.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Gwendoline et voici ma question. Avez-vous un clarificateur après le bassin de décantation secondaire ?
Alors ici, on n'a pas de bassin secondaire ou primaire. On a le bassin biologique et ensuite on a le clarificateur, oui.
Merci. Bonjour, je m'appelle Eva. Voici ma question. Bonjour, je m'appelle Eva. Voici ma question. En combien de temps purifie-t-on les eaux usées ?
Eh bien en fait, donc ici ça tourne 24 heures sur 24. Et en fait, on va dire quand une goutte d'eau elle arrive à la station, elle met à peu près entre 1 ou 2 jours avant de ressortir propre, on va dire.
D'accord. Merci.
Est-ce que toutes les étapes sont obligatoires ?
Oui, toutes les étapes sont obligatoires.
Bonjour, je m'appelle Caïs. Voici ma question.
Différent. Et on est obligé de traiter chaque phase pour que l'eau soit bien purifiée.
Merci. Y a-t-il un bassin d'orage ?
Non. En fait, il y a des bassins d'orage dans les différentes communes. En fait, l'eau, elle est stockée dans un bassin d'orage, comme on appelle, avant d'être envoyée à la station d'épuration.
D'accord. Voilà. Merci.
Bonjour, je m'appelle Noah. Où rejetez-vous l'eau épurée ?
Alors, l'eau qui est sortie de la station épurée, elle est renvoyée directement dans l'Orne.
Merci. Quel est le nom du responsable ?
Le nom du responsable de la station d'épuration, donc c'est moi-même. Voilà, vous êtes tombé sur le bon. Mais par contre, la station d'épuration fonctionne, donc c'est une régie syndicale qui fonctionne avec un directeur et un président de syndicat. Donc le président de syndicat. Ensuite, il a deux vice-présidents donc par commune. Donc ça fait 20 vice-présidents en tout, puisqu'il y a 10 communes. Donc ça représente le bureau, ce qu'on appelle le bureau du syndicat. Donc ensuite, moi, je suis le responsable des installations. Donc moi, c'est Francis. Ensuite, nous sommes 11 personnes sur le service technique. Donc le service technique, donc dit station d'épuration, les postes de relèvement, y compris jusqu'à chez l'abonné, le réseau, le curage, donc les débouchages chez les clients, et voilà. Donc ça fait, c'est pas mal.
Combien y a-t-il d'étapes pour rendre l'eau propre ?
Donc pour rendre l'eau propre, nous avons la phase, donc ce qu'on a vu pendant la visite, donc la phase du pré-traitement, qui récupère donc le dégrilleur, le déshuileur et le dessableur. Ensuite, nous allons sur les bassins biologiques, pour le traitement biologique des boues. Et ensuite, la phase clarificateur, donc la clarification entre la boue et l'eau. Et la dernière phase, c'est la phase qu'on vient de voir, donc la phase traitement des boues. Voilà.
Dans la phase du dégrillage, quels sont les polluants les plus nombreux ?
Au niveau des grillages, il n'y a pas de... ce qu'on appelle bon polluants, c'est pas les polluants, c'est les objets les plus gros, quoi. Donc vous avez arrive dans le dégrilleur, arrive du sable qui passe à travers des mailles, donc vous avez vu tout à l'heure, et on a des mailles, des petits trous qui font 0,5 mm. Donc les petits morceaux de sable, ils peuvent passer et on les récupère après. Par contre, on récupère aussi tout ce qui est lingette et les plus gros objets, quoi. Voilà, sans que ça nous bloque notre dégrilleur.
Merci. Comment faites-vous des bulles ?
Alors les bulles que vous voyez dans le bassin d'aération, elles sont faites par des surpresseurs. Donc on a vu tout à l'heure, hein, les surpresseurs démarrent et hop, on a les bulles qui remontent en surface. Et donc on donne de l'oxygène aux bactéries.
Comment les micro-organismes viennent-ils dans le bassin d'aération ?
Donc les micro-organismes, elles arrivent par la pollution. Donc on a vu tout à l'heure au niveau de l'eau usée, les eaux usées sont chargées de bactéries, de pollution. Donc c'est de la pollution organique. Donc ça arrive par le pré-traitement et ça arrive dans le bassin d'aération.
Je m'appelle Maëva, voici ma question. Dans le bassin de décantation secondaire, pourquoi arrête-t-on l'apport d'oxygène ?
Tu m'as dit dans le bassin d'aération, donc secondaire. Oui, dans le bassin d'aération, quoi. On arrête l'apport d'oxygène pour mettre les bactéries en stress. J'ai expliqué tout à l'heure. Donc on apporte de l'oxygène aux bactéries, d'accord ? Et après, on les met en stress, on leur coupe l'oxygène. Ensuite, on redémarre l'oxygène, justement. Donc elles ont de l'oxygène dans le bassin, elles vont se nourrir de bactéries. Donc elles vont chercher l'oxygène à droite à gauche sur les autres bactéries. Elles vont se nourrir comme...
Avec ce compost obtenu, le vendez-vous ?
Ah là, non, le compost, on le vend pas. C'est pas nous qui le faisons, le compost. Nous, on amène nos boues, on les amène dans le centre où ils le fabriquent. Voilà, et on paye justement. Nous, le transport des boues, c'est facturé. Donc c'est nous qui payons. C'est pas, on le vend pas, le compost, nous.
Je m'appelle Louise, voici ma question. Avez-vous un bassin d'orage en cas de votre pluie ?
Alors, c'est une très bonne question. Donc en cas de pluie. On a des bassins d'orage. Sur les 10 communes, nous avons des bassins d'orage, donc ce qu'on appelle les bassins de pollution. Donc dès qu'il pleut, on récupère la première eau, donc c'est la pollution, on la récupère directement dans les 2-3 heures qui suivent le premier orage. Voilà, donc on récupère le maximum de pollution et ensuite, si la pluie continue, ça part dans le milieu naturel.
Bonjour, je m'appelle Adam et voici ma question. En quel temps purifie-t-on l'eau ?
Ah, c'est aussi une très bonne question. En combien de temps ? En combien de temps ? C'est ça ta question ?
Oui.
En combien de temps ? Il faut savoir que le débit maximum sur la station, il est de 700, entre 700 et 800 mètres cubes heure sur la station. Voilà. On peut passer 10 000 mètres cubes jour par temps sec et 20 000 par temps de pluie.
Bonjour, je m'appelle Corentin. Voici ma question. Que se passerait si la station tombait en panne ?
Ah bah c'est aussi une très bonne question. Donc la station, elle tombe jamais en panne. Donc c'est une station avec deux fils. Donc si techniquement on a un problème sur une file, pour des besoins techniques, on peut séparer les deux fils. Donc on peut travailler sur une file ou sur l'autre.
Bonjour, je m'appelle Elisa. Voici ma question. Quels sont les rôles de chaque personne ?
Donc les rôles de chaque personne qui travaille sur le site de la station. Donc le rôle, c'est de maintenir les ouvrages en bon fonctionnement, de faire de tout ce qui est entretien préventif pour que tout fonctionne bien, quoi. Voilà.
Merci. Bonjour, je m'appelle Ilona. Voici ma question. Quelle est la superficie de la station ?
Celle d'un terrain de foot ou plus grand?
On va dire que la surface de la station, bon, elle va dire un peu plus grande qu'un terrain de foot. Donc tout dépend aussi du nombre de bassins qu'on peut avoir sur une station d'épuration. Voilà, parce qu'ici on a une station à deux fils, on pourrait avoir une station à quatre fils. Donc avec quatre clarificateurs, tout multiplié par quatre.
Vous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, vous nous écoutez sur 95.1. Nous sommes en compagnie de Lizzie, Jade, Timothée, bonjour. Louise, bonjour. Ilona et bonjour. Elisa.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons vous parler du château d'eau de Valleroy. Première question. Comment l'eau vient dans nos maisons? Louise?
À l'aide des tuyaux.
Lizzie?
Bah, c'est ce que je veux dire, elle a des tuyaux.
C'est bon?
Oui, c'est bon. Oui. Je crois que c'est tout bon.
À quoi sert le château d'eau? Elisa?
Pour stocker l'eau.
Bon. C'est bon?
À oui. Stocker. Bah oui, ça sert à stocker l'eau.
Bah oui.
Il n'y a pas de
raison.
Où
se trouve le château d'eau de Valleroy?
En fait, c'est pas château.
Ilona?
En haut du village?
Oui. Lizzie?
En gros, près de chez moi. J'habite près.
Louise?
Tout près.
Non.
Jade?
En haut du village.
Comme en gros, Elisa, elle a dit.
Bah, comme Elisa.
Par contre, Eva, je voulais juste terminer une question.
Oui.
En fait, il est juste avant la côte. Pas la côte, mais la descente.
En fait, il est en face de chez mon tonton, mais bon, on s'en fiche.
Ouais, c'est pas grave. Allez, on continue.
Voilà. Parti. Pourquoi le château d'eau est-il si haut? Jade?
Pour mettre beaucoup d'eau.
Louise?
Pour récupérer les eaux de pluie.
Lizzie?
Et pourquoi il est si grand, quoi?
Si haut. En hauteur, quoi.
Ah, en hauteur, bah pour que l'eau, elle descende.
Mmh. Lisa?
Non, c'était ça.
C'est ce que j'ai dit.
Pourquoi nous avons besoin d'un château d'eau? Lizzie?
Ben, parce que... parce que sinon, on n'aurait pas d'eau dans nos maisons, vu que ça passe par les tuyaux. Et si on n'aurait pas de château d'eau, ben, il n'y aurait pas d'eau qui passerait dans les tuyaux. Du coup, on n'aurait pas eu d'eau chez nous. On ne pourrait pas se laver et on ne pourrait pas boire.
D'accord. Louise?
Parce qu'on ne peut pas stocker l'eau sinon. Oui, en gros, c'est un peu ce que j'ai dit.
D'accord. Oui. Merci. Et maintenant, notre émission est maintenant terminée. Et pour finir, voici une interview de Monsieur le maire de Valleroy. Bonne journée.
Donc, j'ai posé des questions, Monsieur le maire va répondre. Donc, on a déjà répondu à certaines questions hein, de la liste, là. Alors, j'envoie une, la question, là. Quels dégâts peuvent être causés dans un château d'eau? Hein? C'est ça? Ben, dans un réservoir, normalement, on ne peut pas rentrer. C'est fermé. Il n'y a que des personnes autorisées qui peuvent rentrer. Vous imaginez bien que ce n'est pas une piscine, ce n'est pas un lieu public. Donc, normalement, il n'y a aucun dégât. L'ouvrage est fait de telle sorte qu'il résiste des années, des années, des années. Il y a de l'entretien courant qui se fait.
Donc, j'ai posé des questions. Monsieur le maire va répondre.
Donc, on a déjà répondu à certaines questions hein, de la liste, là. Alors, j'envoie une, la question, là. Quels dégâts peuvent être causés dans un château d'eau? Hein? C'est ça? Ben, dans un réservoir, normalement, on ne peut pas rentrer. C'est fermé. Il n'y a que des personnes autorisées qui peuvent rentrer. Vous imaginez bien que ce n'est pas une piscine, ce n'est pas un lieu public. Donc, normalement, il n'y a aucun dégât. L'ouvrage est fait de telle sorte qu'il résiste des années, des années, des années. Il y a de l'entretien courant qui se fait. Il n'y a aucun problème.
Il n'y a pas de problème d'inondation?
Non. Il peut être amené à déborder s'il y a un problème technique. Mais si l'eau déborde, ça passe par une canalisation et ça va à l'égout. Mais ça n'arrive pas souvent, je vous rassure.
Et si, par exemple, le tuyau, il se casse?
Ben, il se casse, on s'en aperçoit et on le répare. Parce qu'il faut le réparer rapidement. Il y a des équipes, il y a des gens qui sont, on appelle en l'instant, qui interviennent jour et nuit, samedi, dimanche, pour réparer ou pour s'assurer que tout fonctionne bien. Hein ? Vous ne les voyez pas, mais ça tourne. Il y a des gens spécialisés, qui ont un bon métier d'ailleurs. Hein ? C'est le métier de l'eau. Hein ? Si vous avez des passions sur l'eau, c'est le moment.
Hier aussi, un monsieur, il nous a expliqué à la station d'épuration, il nous a expliqué sa formation, à son BTS sur l'eau, voilà. Effectivement.
Combien y a-t-il de châteaux d'eau sur Val-le-Roi ? Alors, sur Val-le-Roi, il y a un château d'eau hors d'eau, qu'on appelle le château d'eau de Bellevue, et un réservoir semi-enterré qui se trouve rue Ruelle d'Oignon. Alors, celui-là est un peu plus discret, on ne le voit pas, et on a deux réserves. Voilà. Donc l'eau passe par le premier, du premier va au deuxième et on alimente la commune avec ces deux réservoirs. Dont un fait, rappelle-moi Christian, 600 mètres cubes, 700 mètres cubes, et celui-là, le deuxième, il fait 160 mètres cubes.
Pourquoi est-ce qu'il est marqué sur le château, c'est marqué 150
mètres cubes. Oui, mais bon, 160 mètres cubes. Quand a été rénové le château d'eau et pourquoi ? Alors il y a une dizaine d'années. Sur la photo que vous voyez sur l'écran, c'est l'ancien château d'eau avant la rénovation. Je ne sais pas si on a une photo d'aujourd'hui.
Alors, je vais passer.
Ça, c'est peut-être les travaux. Ça, il y a une dizaine d'années. Enfin, il y a une dizaine d'années, c'était comme ça. Puisqu'on l'a rénové en 2010.
Ah, déjà
2010.
Oui.
Ça, c'est encore l'ancien.
Ah, ça, c'est l'ancien. Vous voyez qu'il était un peu en mauvais état. Enfin, mauvais état. Il faisait un peu vieux, quoi.
Très mauvais état.
J'allais dire, il y a des fuites.
Hein, il y a quelques fuites à droite à gauche, là. Ah, là. Alors, là, vous voyez le réservoir en réhabilitation. Vous regardez la photo, là, c'était les ouvriers. Les professionnels. Ils ont tout pioché le réservoir, ils l'ont tout nettoyé. Voilà, c'était en cours de rénovation.
Alors vous voyez, c'est un ouvrage, c'est un château d'eau en béton armé. Le béton, il n'est pas étanche. Donc à l'intérieur du béton, il y a une coque qui est rendue étanche pour éviter aussi les problèmes d'insalubrité et les problèmes d'étanchéité. Donc pour pas que l'eau traverse le béton, il y a une coque à l'intérieur qui permet, comme une bouteille d'eau, d'être étanche. Voilà.
On va peut-être voir un peu une fois fini.
Et en cas de panne, c'est aussi le service qui vient.
Oui.
Il y avait toujours. Des sacrés.
Oui, sacrés renovations.
Ça lui a fait du bien.
Je
ne
dis même pas ce qu'on a retrouvé dans le réservoir.
Ah oui. Là, on est au-dessus.
Ça, c'est la coupole. C'est ce qu'on appelle la coupole du réservoir.
C'est le chapeau.
Hein, on est dessus. Alors, il ne faut pas se promener. Ce n'est pas un lieu public. Hein. Il n'y a que les techniciens qui peuvent y aller parce que c'est dangereux. On est en hauteur. Et il ne faut pas s'amuser à ça. Si on tombe, on se fait très mal. Voilà, ça c'est la vue qu'on a du château d'eau. Et belle vue. C'est pour ça qu'on l'appelle Bellevue.
Là, c'est des réparables.
Ah, ça c'est le départ, ce qu'on appelle les crépines qui sont à l'intérieur du réservoir. Et c'est le départ. Alors pourquoi elles sont perforées ? C'est pour éviter que des fois, s'il y a des bouts de bois, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du réservoir, ça ne va pas dans le réseau. Hein. On appelle ça des crépines. Voilà. On les trouve dans le fond du réservoir. Ça, c'est
une
pas les.
Trappe de visite.
C'est la trappe de visite, mais c'est pas l'échelle définitive, parce que.
Ah, il y a des échelles définitives.
Ah oui, il y a des échelles à crénonine qu'on appelle.
D'accord.
Ah oui.
Ça, c'est... Dans l'état qu'il est, il était vraiment très très abîmé.
Là, oui.
Hein. Oui, on voit les aciers là. Voyez.
Avec les pluies, avec.
Donc ça coûte. En fait, quand on a travaillé sur le sujet, il y avait deux solutions, c'était en construire un œuf, beaucoup plus important, beaucoup plus haut, ou rénover celui-ci. Et comme on était un petit syndicat avec pas beaucoup d'habitants, le coût était trop important pour reconstruire un ouvrage neuf, donc on s'est plutôt penché sur et choisi la rénovation.
Ah, là, c'est
bien. Quand il commence à prendre des couleurs.
Voilà, oui, plus près, oui.
Alors, la peinture que vous voyez là, c'est une peinture blanche. Vous avez vu que le château d'eau n'est pas blanc. C'est ce qu'on appelle un primaire d'accrochage. C'est une peinture, c'est un primaire. On passe une couche de primaire avant de mettre le produit de finition.
Et avant de mettre la
couche définitive de beauté. La couleur
qu'on choisit. Si on revient en arrière, on voit l'étanchéité, les réparations. Oui. Ah bon, on commence par la réparation du béton pour pouvoir coller l'étanchéité à l'intérieur. Voilà.
Là, c'est la couleur définitive.
Voilà, c'est la couleur définitive, ça oui. Voilà. Ouais. Alors, ce qu'on appelle la cuve, c'est ce que vous voyez en jaune, là, c'est ce qu'on appelle la cuve. Là, vous voyez qu'elle est belle à l'extérieur, elle était de couleurs, là, elle est très sympa. À l'intérieur, vous avez vu le travail qui a été fait à l'extérieur, hein. Ouais. C'est très important. À l'intérieur, il y a deux fois plus de travail. Car il a fallu décaper, nettoyer et mettre le béton à blanc avant de remettre certains produits pour recréer une étanchéité et des produits alimentaires, hein, qui ne sont pas toxiques. Donc, ça a été un travail très, très minutieux, hein, très, très long. Même. Oui. C'est pour rendre étanche le béton, parce que le béton n'est pas étanche, par définition. Et donc, on met des couches de résine, qu'on appelle, avec plusieurs peintures armées. Il y a trois couches de peinture pour rendre étanche, pour pas qu'il fuit, pour pas qu'on voit des traces à l'extérieur et pour pas que l'ouvrage s'abîme par la suite. Hein.
Pour contenir l'eau, ben voilà, on a mis une résine. C'est pas du plastique comme la bouteille d'eau, mais c'est la même chose, sauf qu'on l'a rentré sur la cuve, on l'a étalé sur les bandes et on a refait une forme pour que ce soit aussi étanche qu'une bouteille d'eau.
Donc ce réservoir a été rénové, je dirais, 2009-2010, hein, en gros. A été rénové.
12 ?
Allez. Ça passe tellement vite.
Vous savez, ça fait combien de fois qu'il est rénové ? C'est la première fois
Je pense que c'est la première fois.
C'est la première fois. Il était dans un état, quand on est monté, enfin, moi et Christian, on est monté en... La première fois visité, on était surpris, quoi.
Même l'échelle, elle est toujours en conformité.
Ah oui, on a eu peur.
Ah oui, pour les gens qui travaillent.
Ah oui ? Il est vidé, nettoyé. Bon, il y a un contrôle qui se fait à l'intérieur, comme un contrôle technique sur les voitures. La personne contrôle tout. On le redésinfecte, parce que le fait d'être rentré dedans, on peut amener quelques microbes. On enlève enfin, tout ce qu'il peut y avoir, turbidité, des choses. Totalement rincé, désinfecté, refermé, et on remet en pression et on repart pour un an.
Rien du tout. Hein.
Voilà.
Non, mais on n'a jamais pensé que tout ça se passait. Quoi.
Ah ben l'eau c'est mal expliqué, mais c'est vrai que c'est un travail. Quand on dit que l'eau, on la prend puis on la boit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
On ouvre le robinet et c'est fait, mais il y a beaucoup de travail avant.
Je vous rappelle, c'est un produit qui est distribué 24 heures sur 24 toute l'année. Trouvez-moi l'identique, un produit qui est distribué tout le temps.
Sans eau, on ne peut pas vivre.
Voilà.
Mais même pas un jour. Ils peuvent vivre plus longtemps sans manger, mais avec de l'eau, que... Sans eau, mais en mangeant.
On peut se passer de la voiture, de l'électricité, on peut se passer un tas de choses, des chaussures, on peut se passer, mais pas d'eau, des bonbons, on peut se passer des sandwichs, des McDo, le McDo, on peut s'en passer, mais l'eau, je crois pas.
Elle voulait poser une question.
Vas-y, tu veux poser une question, maman ?
La prochaine.
Par contre, monsieur, vous avez la date de rénovation, mais vous avez.
Je peux poser la mienne, c'est.
Ah, ça, c'était une grande question qu'on s'est posée. Je pense qu'il date de, on l'a dit après la guerre, hein, des années 40, 50, 50 ? Ouais, 50, on va dire, 60.
Allez, on met entre 50 et 60.
C'est vrai qu'on n'a jamais su la date.
Est-ce qu'on demandait comment on faisait avant les châteaux d'eau ?
Oui.
Alors, il y a beaucoup de sources, il y avait beaucoup de lavoirs. Et donc, les sources alimentaient les lavoirs et les gens allaient chercher l'eau il y a quelques siècles. Sur les sources directement. Donc l'eau n'était pas traitée auparavant. Mais en même temps, il n'y avait pas la même pollution qu'on a aujourd'hui. Donc l'eau, elle était moins polluée, mais il y avait quand même des bactéries dedans, puisqu'elle n'était pas traitée. On ne connaissait pas l'eau de Javel à l'époque, ou le chlore. Donc voilà.
L'être humain, depuis des milliers d'années, hein, y compris les Romains, les Gaulois et tous nos ancêtres, ils s'installaient où il y avait de l'eau. C'est-à-dire qu'ils venaient habiter où il y avait de l'eau. Parce que s'il n'y avait pas d'eau, ça ne s'arrêtait pas. C'est la priorité, quand les Romains ont envahi la France, enfin la Gaule, à l'époque, la priorité, c'est que ça s'arrêtait où il y avait de l'eau. Et des terres cultivables. Sinon, ils ne s'arrêtaient pas. Ils continuaient. Ils allaient ailleurs. Alors, quelles machines permettent de faire fonctionner le château d'eau ? Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en fin de compte, pas grand-chose. L'eau, elle arrive par une pompe qui est immergée à quelques kilomètres. L'eau est poussée, elle tombe gravitairement dans le réservoir, et du réservoir, il part gravitairement vers chez vous. Hein? Voilà, ça se fait tout seul.
D'accord.
Alors, combien de mètres cubes contient le château d'eau? Bon, on a répondu, hein, le château d'eau de Bellevue, ben 160 mètres cubes. Hein, qui aujourd'hui est géré par Rhône Aval.
D'accord.
La part était gérée par le syndicat des eaux de Bois-le-Roi-Mandeville. Alors, comment est distribuée l'eau du château d'eau? Ben, grâce à des canalisations enterrées. C'est-à-dire que le château d'eau, il y a des canalisations qui partent dans toutes les rues de Bois-le-Roi. Vous avez une canalisation d'eau potable. Devant chez vous, devant votre voisin. Dans toutes les rues, il y a un tuyau qui passe où on peut brancher de l'eau. On peut se brancher.
Et vous avez un branchement qui va directement voilà. Dans la maison. Et dans la maison, c'est distribué en fonction du nombre de robinets que vous pouvez avoir dans votre habitation, hein, que ce soit la salle de bain, les toilettes, le robinet de la cuisine, la vaisselle. Voilà, vous avez des... Mais vous avez un point de départ qui est la conduite qui se trouve dans la rue, avec un branchement qui arrive dans la maison. Et après, dans la maison, c'est distribué par le... par les habitants.
Mais il y a une question importante là. Je ne sais pas qui c'est qui l'a posée, mais
laquelle?
Attendez. Alors, donc, avant de revenir sur l'assainissement, il y a une question là. Pourquoi fournissez-vous de l'eau pour les toilettes? Alors, je ne sais pas qui c'est qui a posé cette question là. Ah, oui. Je vais trouver. Pourquoi on utilise l'eau potable pour les toilettes? Alors, on dirait quel gaspillage, hein?
Oui.
Oui.
Voilà.
Alors ça, c'était.
Ils ne savaient pas, les enfants. Ah, quand mais... je leur ai dit qu'ils pouvaient boire l'eau des toilettes. Hein.
Non, avant qu'elle coule. Avant qu'elle coule.
Ah oui, mais je l'ai bien dit dans le réservoir. Hein. J'ai parlé du réservoir. Hein.
Attention.
Mais les enfants ne savaient pas que c'était une eau potable et traitée. Oui. Et...
Aujourd'hui, ça voudrait dire que si on distingue l'eau de consommation journalière et l'eau des toilettes. Il serait difficile à diviser. Ça coûterait beaucoup trop cher. Il nous faudrait deux réseaux, doubler les réseaux, doubler les réservoirs. Et ça coûterait trop, trop cher. Il est possible qu'à l'avenir, des communes ou des syndicats, un jour, on arrive là parce qu'on utilisera de l'eau non potable pour les toilettes. Voilà.
En fait, après, il faudrait que les parents, individuellement, mettent un réservoir de collecte des eaux de pluie et réinjectent. Ah oui.
Alors, dans certains... Dans la rue de Paris, il y a des réseaux. Dans certaines communes où en termes d'environnement et dans le cadre de la protection de l'environnement, effectivement, on incite dans des nouvelles habitations, des nouveaux lotissements, des nouveaux quartiers à installer individuellement des réserves d'eau de pluie qui peuvent justement être réutilisées pour l'arrosage du jardin parce qu'on n'a pas besoin pour arroser les légumes de l'eau qui vient du château d'eau. On peut utiliser de l'eau de pluie directement. Et c'est la même chose pour les toilettes. Donc certaines personnes peuvent installer des réserves d'eau enterrées, ou pas, pour la conduire pour les toilettes ou l'arrosage du jardin. Donc, et là-dessus, il peut y avoir parfois des aides financières pour pouvoir faire ces installations. Mais dans ce cas-là, il faut qu'en principe, la commune ou l'intercommunalité ou le syndicat privilégie cette formule avec des aides, et pour des aides incitatives pour demander aux personnes de créer ces réserves d'eau pour limiter les consommations d'eau potable en termes de toilettes, en termes d'arrosage de jardin, par exemple.
Et ça commence à se développer. Avant, ça n'existait pas du tout.
On est vraiment aux prémices d'un grand changement, je pense.
Alors, une question aussi très importante. Là. Comment savez-vous que l'eau du château d'eau est potable? Alors, ça c'est très intéressant. Je ne sais pas qui a posé ça, mais c'est vrai que... Comment savez-vous que l'eau du château d'eau est potable? Non, elle est potable. Mais comment la garder potable? Alors.
Comment on sait qu'elle est potable?
Voilà, comment on sait qu'elle est potable?
Comment on peut savoir si elle est potable? Est-ce que vous savez?
Oui, parce qu'elle passe dans des tuyaux au-dessus de la terre. Et du coup, elle est sur la terre. Mais elle est déjà potable, vu qu'ils l'ont déjà traitée.
Voilà. Mais après, elle est traitée, elle est dans le réservoir. Comment on...
Il faut s'en assurer.
On est obligé.
Hein? Oui, on met du chlore. Ça
on va aller voir dedans ou on va aller voir.
Non, on peut pas rentrer dedans. On peut pas se baigner. On peut pas aller voir. On peut pas la boire. Donc, vas-y, grand.
Parce qu'on la nettoie tous les mois.
Oui, on est pas tous les mois, tous les ans.
Tous les ans,
mais on... Ça participe dans la qualité du circuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà. En fait, c'est une obligation.
Voilà.
Pour le distributeur d'eau. Donc, pour le distributeur d'eau, il y a une obligation d'avoir une eau potable tout le temps. Et pour ça, il y a des contrôles journaliers qui sont faits. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, l'eau est contrôlée dans tous les réservoirs pour voir s'il n'y a pas un problème dans l'eau. Voilà, c'est un contrôle interne par le syndicat, par le fermier, mais chaque jour, l'eau est contrôlée. Parce que c'est tellement important, l'eau potable, tout le monde en boit, et ça peut être de l'eau polluée, ça peut être grave pour les populations. Donc il y a un contrôle journalier.
Avant c'était le technicien qui allait au réservoir tous les jours pour contrôler l'eau. Aujourd'hui, on a des moyens techniques qui nous permettent à toutes les 10 minutes de savoir si on a du chlore dans l'eau. Et tant qu'il y a du chlore, l'eau est potable. Et il y a des analyses faites par l'ARS, c'est-à-dire par l'ARS qui
l'Agence
est
régionale de santé.
Donc c'est l'État qui viennent comme ça, chez vous, au réservoir, dans une usine, sans prévenir. Et ils viennent prélever de l'eau dans le robinet. Et eux, ils font une analyse complète. Et pratiquement, dans un syndicat comme Val-le-Roi, on en a une cinquantaine dans l'année. Ouais, tous les mois. Ça dépend, des fois, ils font deux. Oui.
Moi, je regarde le journal Junior. Et dimanche, ils ont parlé que je ne sais plus dans quel pays, il y avait de l'eau, mais elle n'était pas du tout potable. Et il y avait plusieurs gens qui ont mouru à cause de...
Voilà, qui sont morts à cause de ça, oui. Par rapport à la pollution. Bah oui, parce que de l'eau, on l'a dit tout à l'heure, c'est sans eau, on ne peut pas vivre. Et avec de l'eau sale ou polluée ou empoisonnée, eh ben, on meurt. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que l'eau soit potable tous les jours et constamment.
Savez-vous qui consomme le plus d'eau dans la commune ? Ah. Alors, dans une famille, si vous êtes tout seul, vous ne consommez pas beaucoup d'eau.
Alors. Monsieur Bourmelon demandait si c'était sa famille. Est-ce qu'on est pointé du doigt ?
Non. Au contraire, ceux qui consomment d'eau, on est content parce qu'ils payent.
Oui,
oui,
c'est ça,
dans la famille. Non, plus la famille est nombreuse. Enfin, je veux dire, si la famille, il y a le papy, la mamie, il y a tout le monde, le tonton. Si vous êtes une dizaine, vous consommez plus que la personne âgée qui est toute seule dans la maison. Quoi. Alors, mais c'est pas ça, c'est normal, hein, parce que plus on est nombreux, plus on consomme. Après, il peut y avoir le boulanger qui consomme beaucoup plus d'eau, parce que lui, il fait du pain, il lui faut de l'eau. Il peut y avoir une entreprise, il peut y avoir l'école aussi. L'école, vous êtes nombreux dans la classe, vous allez aux toilettes, vous consommez de l'eau. Donc, il y a des gros consommateurs, hein, comme on appelle, mais sauf... la Sauvable qui consomme des milliers et des milliers de tubes dans l'année, une commune, c'est pas.
Il peut y avoir voilà. Autre chose qui consomme beaucoup d'eau et qui vous amène du plaisir. Vous imaginez ce que certains auront peut-être chez eux et d'autres pas. Voilà, les piscines. Les piscines, il y en a qui ont des très grandes piscines. On consomme beaucoup d'eau sur la piscine. Ah ben voilà.
En plus, quand tu mets des piscines en plastique, quand tu dois les gonfler, après tu dois mettre de l'eau.
Bah oui, voilà. Et puis l'évaporation, il faut remettre constamment. Donc les piscines, quand elles sont vidées une fois par an, en principe, voilà, il faut les remplir à nouveau. Donc ça consomme aussi beaucoup d'eau. Mais comme le disait Marcel, des entreprises peuvent avoir un besoin important d'eau. Si on se rappelle un peu le temps de la sidérurgie, les usines de métal, elles étaient construites le long des rivières parce qu'elles étaient de grosses consommatrices d'eau. C'était de l'eau de rivière, c'était pas de l'eau potable qu'elles utilisaient. Mais elles avaient besoin de beaucoup d'eau. Aujourd'hui, dans les entreprises, effectivement, il y a certaines entreprises, par exemple, qui font du lavage, qui font des choses de ce type, peuvent être des gros consommateurs d'eau.
Donc si on mettait moi, le plus gros consommateur d'eau sur Val-le-Roi, c'est l'usine Sauvable.
La Sauvable, c'est pas chez nous, c'est Batilly.
Ah, d'accord.
Mais sur Val-le-Roi,
Et comme l'eau, elle est commune, secteur, c'est...
Ah non. Alors ça vient d'un même endroit, ça vient toujours du bassin ferrifère. Ça vient toujours du dessous, des galeries minières. Et la réserve d'eau, elle vient de là, puisqu'elle est pompée...
Qui parle?
Une simple question, et pour faire un portable, il faut de l'eau. Et il faut 3 mètres cubes d'eau pour faire un portable. Donc il faut pratiquement une petite piscine que vous avez chez vous, là, circulaire, là, pour faire un portable. Alors imaginez le nombre de portables qu'il y a sur Terre et le nombre de mètres cubes d'eau qui est utilisé.
téléphone.
C'est sur les iPhones.
Ouais. Pour faire les portables, oui.
C'est
pour fabriquer.
C'est pour le verre. C'est pas quand on téléphone qu'on utilise de l'eau.
Oui.
C'est
pour
ma mère, elle me l'avait déjà dit.
Hein?
Ah, ma maman, elle me l'avait déjà dit.
Ah ouais, c'est vrai, c'est bien.
Voilà.
On a d'autres consommations d'eau qui peuvent être importantes, notamment dans les écoles. Vous êtes nombreux à l'école, entre l'école maternelle et l'école primaire. Vous êtes environ 250 enfants. Si les 250 vont aux toilettes 2-3 fois par jour, se lavent les mains, laissent couler les robinets, vous êtes, la structure des écoles peut être très consommatrice en eau. La salle des sports, par exemple. La salle des sports, quand les gens vont faire un match de basket, vont faire leur activité sportive, derrière, ils vont se doucher. Ils vont boire, ils vont se servir. Si les robinets sont mal fermés, si les douches, on les laisse couler en permanence, ça peut être aussi... On peut avoir de grosses consommations d'eau.
Oui. Alors, on a mis des boutons poussoirs.
Voilà, donc on a amélioré tout doucement, parce qu'avant, on avait des robinets qu'on ouvrait. Des fois, on ne le fermait pas bien. L'eau s'écoulait. Et à la fin de la journée ou à la fin du mois, ben, ça fait des grosses consommations d'eau. C'est pour ça qu'il faut...
Ma mamie, elle l'a fait réparer son robinet parce qu'elle avait toujours le même qu'avant, mais elle se l'est fait remplacer.
Tout à fait, il y a un temps qui...
Y a-t-il un bassin qui récupère toutes les eaux usées? Alors, les eaux usées... non, pour les eaux usées proprement dites, il n'y a pas de bassin. L'eau que vous sortez des toilettes ou qui part de votre baignoire, de votre douche, elle coule gentiment, progressivement, elle va directement à la station d'épuration de Mayeur. Vous étiez voir hier. Voilà. Bon, il y a des pompes au passage qui la repompent parce qu'on ne peut pas régulièrement, mais on les stocke pas. Parce que si on les stocke, c'est pas conseillé. Par contre, lorsqu'il y a des orages, quand il pleut énormément, il y a beaucoup d'eau qui arrive d'un coup. Et là, on récupère, comme tu en parlais, les avaloirs de la cour, on récupère toutes les surfaces des toitures, toutes les surfaces des routes, et ça fait des mètres carrés d'eau récupérée. Enfin, des mètres carrés, et ça fait des volumes énormes d'eau. Pour éviter d'engorger les tuyaux d'eau usée, ces eaux transitent par des bassins d'orage, qu'on appelle. À Val-le-Roi, on en a un.
Et voilà,
le
bassin d'orage.
Voilà.
On va vous le montrer.
Hein, il y en a un, Val-le-Roi. Qui se trouve près du monument aux morts. Vous voyez tous les monuments aux morts ?
C'est quand vous avez fait tous les travaux ?
Oui.
Et on va se devoir pour aller au sport.
Devant la pharmacie, voilà.
Oui, hein, la
voilà.
Pharmacie.
Sur la place, là.
Oui.
Sur la place, derrière le monument aux morts, en dessous, il y a un ouvrage.
Alors, regardez, voilà. Là, on va voir le début. C'est par là. Je ne sais pas si on peut l'agrandir.
Si, j'arrive. Voilà.
Alors
là, on reconnaît le coiffeur.
Le coiffeur et le monument aux morts.
Voilà.
En fait, pourquoi on crée ces bassins d'orage?
Alors normalement ils savent, hein.
Ils savent, alors allez-y. Oui, mais pourquoi qu'on a créé un bassin d'orage?
Pourquoi on a créé un bassin d'orage? C'est bon.
Alors, vas-y.
Au cas où c'est un orage, que c'est trop, qu'il y a trop d'eau dans
une forte pluie. Et
exactement. Voilà.
Une forte pluie.
Une forte pluie.
Soit évacué,
non, justement. Justement, quand le village s'est construit, il y avait peut-être 300 habitations à Val-le-Roi. Donc, les tuyaux qui ont été pour déverser les eaux usées jusque vers la rivière, vers le point bas, les tuyaux avaient une certaine dimension qui permettait d'évacuer les 300 habitations, 200 ou 300 habitations, mais ils avaient prévu beaucoup plus large en vue d'une extension possible de la commune. Et la commune s'est étendue. Aujourd'hui, il y a 1200 foyers environ sur la commune. Et donc, les tuyaux en bas de Val-le-Roi qui ont été posés il y a un certain nombre d'années ne sont plus suffisants, notamment quand il y a ces gros orages. Ils sont suffisants pour les eaux usées, quand il n'y a que ce qu'on appelle le temps sec, que le transport d'eau usée, hein, les toilettes, les douches, lavage de voiture et autres. Par contre, quand il y a des grosses pluies et des gros orages, les tuyaux ne sont pas assez dimensionnés. Donc on risque d'inonder les habitations qui sont sur les points bas.
Du coup, c'est pour ça, par exemple, dans les grilles d'évacuation des eaux, ça débordait ?
Voilà, exactement. Donc c'est les tuyaux qui se mettent en charge, ils sont remplis complètement, ils n'arrivent plus à absorber, l'eau arrive par le haut. Et donc ça ressort partout où il y a des grilles. Et les bouches d'égouts, les avaloirs, enfin tout ce qui est les branchements chez les gens aussi, ça peut déborder dans les habitations. Donc... Donc on crée des réservoirs qui permettent de ralentir les eaux sur le point bas de la commune. Vas-y.
Moi j'habite à 2 mètres du jardin et mon voisin, quand l'orne allait monter, son jardin il était inondé.
Voilà, sur la partie basse de la rue, on avait des problèmes sur la partie basse, oui, notamment en bas de la rue des Jardins. Tu as raison. Donc on a, depuis qu'on a fait ce bassin, mais vous allez voir, donc on a. Regardez le trou, on voit les gens, on voit le mur du cimetière, on voit les gens, la taille du trou. Vous voyez, hein. Donc au fur et à mesure, je gêne moi. Regardez, vous allez voir comment ça se monte. C'est, en plus, c'est Jean-Pierre Mugeot qui avait fait les photos, c'est super bien fait. Donc on va voir l'évolution du bassin.
Alors voilà, ici, donc regardez, c'était la terre. Et là, on a rajouté.
On a fait le terrassement, on a tout évacué pour pouvoir construire le bassin dans le fond, pour l'antenne. Voilà, donc là on a fait un béton de propreté, ce qu'on appelle un béton de propreté, une dalle au sol pour pouvoir poser le réservoir dessus. Regardez, ça va être hyper intéressant. Voilà, là les éléments qui arrivent, donc c'est des éléments préfabriqués qui s'emboîtent les uns avec les autres pour créer ce réservoir. Vous voyez la grue qu'il faut porter? Voilà, et on pose les éléments suivant un. Voilà, c'est une extrémité du réservoir.
Ah, voilà, regardez ici.
On voit le trou pour la future arrivée des eaux usées, des eaux pluviales.
C'est quand un tuyau, on les assemble.
Voilà.
C'est ça, là,
on voit le tuyau.
Le tuyau, l'élément posé. On fait ménage.
Voilà, regardez, vous allez voir, c'est super. Et on voit les éléments au fur et à mesure qui vont venir se rajouter. Voilà, c'est les trappes d'accès pour rentrer dans le réservoir. Comment ? Alors, regardez au fur et à mesure, hein, regardez le réservoir, comment il se construit. Il y a 3 bandes, et les 3 bandes sont reliées ensemble. Hein. Sont connectées ?
Vous voyez ici, là, vous avez un cordon noir. Vous
voyez ? Ah oui, c'est comme un joint d'étanchéité.
C'est un joint d'étanchéité. C'est un joint d'étanchéité. Et normalement, ils vont le tourner, le réservoir, et ils vont le plaquer contre l'autre, le boulonner, et ça fait étanchéité. Il ne faut pas qu'il fuit.
Vous avez vu, là, on le voit, là.
On voit le joint. C'est un joint d'étanchité.
Comment ?
Pour pas que l'eau passe à travers les éléments.
C'est le fil noir, oui, voilà. Je peux.
Ce qui permet de faire étanchéité.
Ça, là. Et c'est pas un fil, hein, c'est du plastique.
C'est du caoutchouc.
C'est comme un joint
du bon caoutchouc.
Voilà. Ça
vous voyez, sur votre partie, vous n'en avez pas.
Et quand, là, on n'en a pas, là.
Là, il n'y en a pas. Et quand ils vont le poser, ils le tournent et ils vont mettre le joint contre la partie qui est en attente.
D'accord.
Voilà. Normalement, si on avance comme ça, voilà, ils vont le tourner.
Oui,
ils commencent à le tourner, vous voyez. Voilà, ils le tournent, voilà.
Et en fait, cette partie noire-là, elle va coller contre...
Voilà. Et après, il y a des boulons qui vont serrer pour les rapprocher, pour les rendre étanches. Et le bassin est étanche, sur les 4 côtés.
Et on voit sur les côtés les ouvertures. Là. Vous voyez, voilà, les ouvertures, ça permet de rendre commun l'ensemble des éléments.
Ah, puis là, on voit ici aussi.
Voilà.
La communication.
De l'autre côté, maîtresse.
Vous avez là, vous en avez une ici. Elle n'est pas assez claire pour vous.
Moi, je la vois, maîtresse.
Vous en avez une aussi ici.
On voit ces
petits trous là.
Ouais.
Par contre, moi, j'ai pas le trait là. Sur mon ordi.
C'est une feuille.
Ah, pardon.
C'est une feuille.
Je ne voyais pas en diagonale
la feuille.
Je me suis dit, mais je ne l'ai pas sur l'ordi. Ouais. Voilà, bah là je vois mieux.
C'est une feuille.
Voilà, bah là on voit les petits accès. Alors je regarde. Là ça commence à se finir. Bah, je crois que c'est fini là.
Voilà.
2, 4.
Ici, c'est des rempels.
Alors il a expliqué Adam, je crois.
Oui, il a dit. C'est une trappe de visite, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a un tampon dessus, comme un tampon d'égout. On l'ouvre et ça permet d'accéder. Vous voyez, il y en a un là-bas. Il y en a, vraiment, il y en a 3, je crois.
Vous vous souvenez le château d'eau ? Le château d'eau, il y avait une trappe au-dessus pour aller assurer l'entretien, aller visiter et l'entretien. Et là, c'est pareil. C'est un réservoir qu'on doit aussi entretenir, aller voir ce qui se passe à l'intérieur quand il n'y a plus d'eau, bien sûr, pas quand il y a un orange. Mais il faut pouvoir aller dedans en permanence pour aller entretenir. parce qu'il faut, aller voir ce qui se passe à l'intérieur régulièrement pour l'entretien.
Et juste, qu'est-ce qui fait que vous l'ayez mis là? Eh ben,
il fallait déterminer un emplacement pour pouvoir pour un certain nombre d'habitants, pour un certain volume, pour ralentir en fait et ne pas retrouver les problèmes qu'on a en bas de Valleroy. Donc on a ciblé, puisqu'on était en travaux sur l'avenue Charles de Gaulle, on a ciblé cet endroit-là, donc on est sur le point bas de l'avenue Charles de Gaulle, et on traite un certain nombre d'habitants sur la commune. On ne peut pas faire un réservoir comme ça pour l'ensemble des habitants. Donc partout où il y aura des extensions aujourd'hui dans Valleroy, on sera obligé de s'adapter et de prévoir ce type de bassin pour ralentir les eaux d'orage.
Des bassins comme ça, il y en a des toutes tailles, ça sert, on va dire, c'est un petit. On est exactement à 500 mètres cubes. On fait des bassins, enfin les chiffres pas grands, mais 2000, 3000, 4000, 5000 mètres cubes. Il y a des bassins, c'est des cathédrales. Ils sont 10 fois plus grandes que la pièce. C'est des cathédrales. Hein,
ouais,
et tout ça, c'est du génie civil. Alors, c'est métiers du béton.
Vous n'aurez pas la chance de le voir, mais on va refaire un deuxième qui sera différent sur à l'extrémité de la rue de Lorraine, au carrefour de la rue Chevarde. Il y a un bassin qui va être aussi un peu du même genre. Il n'a pas le même.
C'est du père.
Oui, c'est du père. Mais ça, dans l'esprit, c'est la même chose.
Et pourquoi on n'aura pas cette chance de voir?
Parce que les travaux ne se feront pas avant, à mon avis, juillet-août.
On fera des photos.
Oui, voilà, si vous avez comme ça, on peut faire le
photos. Parce qu'il sera un deuxième cycle, on peut.
D'accord.
Mais c'est une autre technique, c'est une autre technique.
Voilà,
ça se passe. Je crois que bien qu'il y ait des erreurs, t'as
Non, mais c'est le CM2, là.
Ah non, c'est le CE2, donc eux, ils restent, ils pourront voir.
D'accord, ah bah vous verrez, alors j'ai rien dit, vous verrez.
Voilà, vous pourrez voir, on ira, moi, pas que moi.
On verra
avec
les maîtresses.
Faire une sortie
avec
cette maîtresse.
Ce aussi, c'est de voir des stations d'épuration en roseau.
Ah,
ça, c'est
oui.
Très bon, mais il n'y en a pas dans le secteur ici. Ah. Non, on en a quelques-unes dans le secteur du plateau pied-noir, on en a 7, et c'est un traitement naturel.
Ah oui, comme les piscines naturelles là, que les gens font avec des roseaux,
c'est ça.
Des systèmes d'aération,
voilà,
des plantes qui traitent, qui filtrent.
Tout à fait. Naturel, c'est vraiment adapté pour les petits villages de 100-200 habitants.
D'accord.
Et ça, on peut palper la chose.
Oui, ça, il faut que je regarde avec vous, les enfants, il faudra nous faire penser.
Voilà. Station des lagunes, c'est des lagunes.
Ok.
Où a été traitée l'eau de Valleroy?
Où est traitée l'eau de Valleroy?
Oui.
Les eaux usées?
Oui.
Ah ben les eaux usées, donc quand tu tires à la chasse d'eau, ça part. T'habites où à Valleroy?
Moi j'habite pas à Valleroy, j'habite à Giromont.
Ah, t'habites à Giromont. Bon alors quand tu es à Giromont, tu tires, je crois qu'à Giromont ça va où? Alors quand tu es aux toilettes.
Voilà. L'eau, elle passe, elle part des habitations.
Une fois que l'eau usée, elle part de l'habitation, elle rentre dans les tuyaux, elle descend en bas de Valleroy, au point le plus bas, au bord de la rivière, c'est le point le plus bas, c'est là que sont les rivières en principe. Et à partir de là, on a un tuyau qui rejoint donc Valleroy qui va jusque Moyeuvre. Et qui au fur et à mesure, il y a Moyeuvre qui est branché dessus, Moineville, Moyeuvre, Moineville, Auboué, Omécourt, Jeuf, jusque Moyeuvre. Toutes les communes se raccrochent au réseau principal. Hein, c'est un réseau principal et toutes les connexions se font, toutes les communes se rejettent dans le même tuyau qui va à la même station d'épuration. On ne peut pas. C'est encore une fois, c'est un investissement trop important pour que ça repose sur une seule commune. Donc les communes se sont rassemblées pour créer une station d'épuration qui puisse traiter les eaux de l'ensemble des populations des communes. Donc au niveau assainissement, il y a 9 communes qui sont concernées par le. Qui sont membres du syndicat et qui ont la même station d'épuration qui se trouve à Moyeuvre.
Juste les enfants qui étaient avec moi dans mon groupe hier, on a vu un camion qui venait lever votre main. Gwendoline. Pourquoi Gwendoline?
Parce qu'ils n'avaient pas de traitement de
Exactement. Alors, on ne savait pas qu'on pouvait pré-traiter quelque chose. Par exemple, là, il restait des boules, ils ne pouvaient pas les traiter à Bâti, ils les ont réinjectés à la station d'épuration. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que...
Ils leur
refont
faire tout le...
Du bien jusqu'à la fin,
ils refont
faire tout. Voilà,
on ne
savait pas.
Explication.
Bah, c'est-à-dire qu'on récupère des bouts. Là, c'est les bouts de bactéries. Parce que quand on traite l'eau, la réaction chimique des bactéries fait... Parce que, c'est-à-dire la pollution qu'on amène, on la retrouve à travers ce qu'on appelle, nous, vulgairement, des bouts. Ce sont les bactéries qui ont travaillé et qui ont fait des bouts. C'est comme quand un escargot, il avance, il laisse une trace derrière, bah, c'est la même chose, en gros. Donc, on récupère
tout ça.
C'est
joli.
Oui. C'est, donc, on récupère ces bouts. Alors, il y en a quelques mètres cubes. Et la station de bactéries n'est pas, comment dire, conçue pour traiter les bouts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les pompe, on les transporte à la station à Mayeuvre, gérée par Ornaval. Et là, la station est assez grande pour traiter les bouts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vide le camion, ce qu'on appelle dans une fosse des potages.
Ah, c'est ce qu'on voyait, les tuyaux voilà. Qui ressortaient. J'ai pris une photo.
On stocke ces bouts-là qui sont très concentrés, parce que c'est de la matière brute. Et la nuit, parce qu'il y a moins de pollution, on la réinjecte par étapes dans le bassin d'aération pour permettre de les retraiter de nouveau. Mais vous allez me dire, le bassin, le géant bassin que vous avez vu à Mayeuvre, ce bassin-là aussi fabrique des bouts. Mais vous avez dû voir la salle de presse, je suppose, où les bouts sont compressés, comme du...
Dans le groupe, le monsieur, quand il a pressé, il l'a ouvert un petit peu, il a même arraché un...
Ça fait comme un gâteau.
Ça s'appelle un gâteau. Dans les bennes, voilà. On pensait que c'était des pneus, tellement non, c'était compacté. Mais c'était la terre. C'est les bouts.
C'est les bouts.
Oui. Oui, et nous sommes. Voilà.
C'était du plastique.
Attendez, je termine et puis après, je pose la question. Donc ces bouts, elles sont compressées, elles tombent dans la benne du camion. Quand le camion est plein, bah, on le prend, on l'amène, ces bouts, dans les centres de traitement. Elles sont remélangées à des terres, des lieux spécialisés, et ça se revend en compost.
Hey, mais nous, on n'a pas compris comme ça, elles sont on pensait pas, que c'était...
Quand elles ne sont pas polluées. Mais, bon. mais des boues non polluées qui sont saines, et c'est la grosse majorité des boues, sont retraitées en compost dans une filière de valorisation. Ah,
d'accord. Donc, vous croyez que c'était tout de suite bon pour le compost?
Ah non.
C'est souvent revendu...
C'est souvent revendu ou donné à des agriculteurs pour l'épandage dans les champs.
D'accord.
Et il y a des bouts pollués qui, elles, sont traitées. C'est dans les Vosges. Hein.
Les bouts sont traités, ils sont incinérés. Mais après, on peut les porter chez les paysans, mais ils sont plus liquides. C'est très très contrôlé, la chambre d'agriculture, les paysans, mais ça se fait.
D'accord.
On essaie de
valoriser
le système.
D'accord.
Mais ça fonctionne bien en ce moment. Ça va bien.
Question, Elisa?
Je rappelle.
Vas-y, Noah.
Attends,
la dernière question.